dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Non, pardon, chapitre 15. Évangile de Jean au chapitre 15. Et au verset 13. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qu'il laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Dieu veut attacher nos cœurs à son Fils bien-aimé, pour que nous soyons ses amis. Mon propos est d'essayer de parler un peu de cela, aimer Jésus et être son ami. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Nous sommes appelés à cette amitié intime qui était réalisée dans les évangiles par certains. Le Seigneur avait des ennemis, mais il avait aussi des amis, et en particulier dans la maison de Béthanie, puisque quand le Seigneur parle de Lazare, au chapitre 11, au verset 11, il dit « Lazare, notre ami, s'est endormi ». Lazare, notre ami. Cette famille était entrée dans cette amitié du Fils de Dieu. Comment être l'ami de Jésus? Comment aimer Jésus? La première chose, pour aimer Jésus, il faut le rencontrer. On peut regarder au début de l'évangile de Jean, ce sont des choses très simples. Comment les premiers disciples ont rencontré le Seigneur et se sont attachés à lui? Car aimer, c'est s'attacher. On voit cela aussi, on peut peut-être déjà voir cela dans le Deutéronome, au chapitre... au chapitre 10. Du Deutéronome, et au verset 15, qui nous dit « Cependant l'Éternel s'est attaché à tes pères pour les aimer. » L'Éternel s'est attaché à tes pères pour les aimer. L'amour suscite un attachement, et un attachement très fort. C'est ce qui s'est passé justement au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, où Jean le baptiseur, très, très fidèle précurseur et témoin pour le Seigneur, dira déjà au verset 29, le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et puis, un autre lendemain, au verset 35, le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, Il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Pour aimer Jésus, il faut le rencontrer, il faut le découvrir. Il faut savoir qui il est, il faut le connaître. On chante ce cantique « T'aimer Jésus, te connaître ». Mais pour aimer le Seigneur, il faut le connaître. Mais ici, le Seigneur est présenté à ses disciples et il nous est présenté à nous aussi. Et il y a bien sûr une rencontre initiale dans notre vie, une découverte du Seigneur. Dieu nous le fait connaître, nous le fait connaître maintenant par sa parole, mais encore par le témoignage direct de Jean autrefois. Nous pouvons prendre la place de ces disciples-là. Et donc, il y a une première fois, on rencontre le Seigneur, mais c'est une rencontre qu'on doit renouveler dans notre vie. Le Seigneur, nous devons le rencontrer continuellement dans notre vie et redécouvrir et approfondir tout ce que nous connaissons de lui, tout ce que Dieu nous présente de lui. Si nous voyons ce chapitre, dans ce premier chapitre de l'Évangile de Jean, cette rencontre, tout ce que ses disciples ont appris du Seigneur. Quand nous voyons les différents noms qui sont donnés ici du Seigneur, différents titres, il y a bien sûr tout d'abord l'agneau de Dieu. Au verset 39, c'est Rabbi, c'est le maître, celui qui enseigne comme personne n'a enseigné, qui a parlé comme personne n'a parlé. Celui qui nous a donné les paroles qu'il a entendues de son Père. Des paroles qu'aucun prophète n'a pu dire comme le Seigneur Jésus les a dites. Le Seigneur nous a révélé des choses qu'aucun prophète ne pouvait dire. Le Seigneur nous a parlé de l'amour de son Père pour lui-même, de son amour pour le Père. Il nous a parlé des motifs profonds qui le faisaient accomplir cette œuvre. Le Seigneur est un maître incomparable. Nous ne devons pas nous lasser de l'écouter. Et puis, il est le Messie, verset 42. Nous avons trouvé le Messie. Au verset 46, il est Jésus, le fils de Joseph. Au verset 50, il est le fils de Dieu. Il est le roi d'Israël. Et puis à la fin du chapitre, il est le fils de l'homme. Voilà déjà une présentation complète de cette personne merveilleuse auquel nos cœurs sont invités à s'attacher. On ne va pas dire qu'ils doivent s'attacher. Dieu nous invite à nous attacher à la personne de son Fils. Nous attacher très fort. Nous attacher par amour. Et on sait bien deux personnes qui s'aiment vraiment, mettons dans le cadre du mariage, on ne peut plus les séparer. Ils sont attachés définitivement l'un à l'autre. Et cela est aussi pour nous, aimer Jésus, nous attacher à lui, être son ami, c'est un absolu. C'est un absolu. On trouvait cela pour... dans le premier et plus grand commandement de la loi, quand le Seigneur est interrogé à ce sujet dans l'évangile de Marc au chapitre 12, au verset 28, le scribe qui demande au Seigneur Quel est le premier de tous les commandements ? Le Seigneur répond, il dit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu, un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et au verset 33, il est encore ajouté, de toute ton intelligence. Eh bien, c'était autrefois un commandement, et nous avons tous failli par rapport à ce commandement. Aucun d'entre nous n'a jamais aimé Dieu de cette manière-là. Le Seigneur, lui, a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Mais nous, les hommes, ces créatures, non, nous n'avons pas fait cela. Et c'est notre première culpabilité, notre premier péché, c'est de ne pas vraiment aimer Dieu. Et maintenant, nous savons que bien que nous n'ayons pas aimé Dieu, lui nous a aimés très fort. Le Seigneur Jésus aussi nous a aimés très fort. Et dans le premier épître de Jean, il est dit que Dieu nous a aimés le premier, et ça c'est vrai. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Donc il faut découvrir cet amour de Dieu. Et Dieu nous montre cet amour partout dans la parole, mais nous l'avons vu, cet amour, dans la personne de son Fils. Alors nous avons dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, un épisode très, très intéressant où un pharisien invite le Seigneur chez lui. Et nous savons, il y a cette femme pécheresse qui vient là. Et qui, au verset 38, se tenant derrière à ses pieds et pleurant, se mit à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le parfum. Attitude extraordinaire, incomprise par le pharisien, dans son attitude de pharisien. Vous ne pouvez déjà pas s'imaginer qu'une personne publique, on va dire publiquement pécheresse, ça peut changer. Et qu'avec le Seigneur, tout peut changer. Et alors le Seigneur fait ses reproches aux pharisiens et puis il lui dit, au verset 47, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il est peu pardonné, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Pour aimer Jésus, il faut l'avoir rencontré comme sauveur. Il faut l'avoir accepté comme sauveur. Il faut le connaître comme sauveur, comme mon sauveur, comme celui qui m'a aimé le premier. Et maintenant, moi, oui, je peux l'aimer. Je peux l'aimer en retour. Et cette femme a rendu ce témoignage sans parole, juste avec des gestes. Elle avait reçu le Sauveur. celui qui peut pardonner ses péchés. Elle est venue avec un grand fardeau, sans doute public. Elle l'a déposé aux pieds du Sauveur. Et elle pouvait l'aimer. On ne peut pas aimer Jésus quand on ne le connaît pas comme Sauveur. Je pense qu'on peut affirmer cela. On ne peut l'aimer que quand on le connaît comme Sauveur. Sinon, on se remet sous la loi de Dieu, où on doit aimer par soi-même, et on ne peut pas arriver par nous-mêmes, dans notre nature de péché, à aimer Dieu. C'est impossible. Une petite chose très pratique que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu qui nous fait réfléchir. J'ai dit que aimer Dieu est un absolu. Maintenant, aimer Jésus qui m'a aimé, c'est aussi devenu un absolu. On ne peut pas aimer Jésus à moitié. Et quand le Seigneur enseigne dans le chapitre 6 de Matthieu, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » L'amour pour Jésus ne peut pas être un amour partagé. Il y a une concurrence sans merci. Mammon aimerait prendre la place, n'est-ce pas ? Ou au moins une petite place. Mammon, c'était le dieu de l'argent, ça l'est encore aujourd'hui. Le souci qu'on peut se faire par rapport au bien matériel, par rapport à l'argent, par rapport à sa situation, par rapport à plein de choses. On peut mettre beaucoup de choses sous Mammon. Mammon, on doit le chasser. Il ne doit pas avoir de place. On ne peut pas aimer Dieu et Mammon. On ne peut pas aimer non plus le Fils de Dieu et Mammon. Nous devons examiner cela dans notre vie. Est-ce qu'il y a une concurrence? Quelqu'un ou quelque chose qui veut prendre l'amour qui doit être tout entier pour le Seigneur. Et cela aussi, on peut l'apporter au Seigneur dans une confession pour en être délivré. Maintenant, nous avons les paroles très directes du Seigneur que nous connaissons à la fin de l'évangile de Jean. Au chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, Il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Et l'accent est mis ici sur le fait de garder la parole. Pas seulement de la connaître, mais vraiment, véritablement, de la garder. Le Seigneur dit cela à deux reprises, dans le verset 21 et dans le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La parole du Seigneur est une chose à défendre. L'ennemi veut l'annuler, Satan veut la reprendre. Beaucoup de croyants au long de l'histoire de l'Église ont lâché des parties de cette parole, ne l'ont pas retenue fermement. Ça veut dire que c'est difficile de la garder. Ici, on lit cela, on dit « mais moi je garde la parole, j'ai toujours gardé la parole, examinons ça de très près ». Beaucoup de croyants n'ont pas gardé la parole. Et moi, je ferai mieux qu'eux. Moi, j'y arriverai, je garderai toujours la parole, je l'ai toujours gardée. Garder la parole de Jésus, c'est une chose difficile. Il faut aimer le Seigneur. Lui être attaché. La personne du Seigneur, c'est la personne la plus importante de ma vie. Sa parole, c'est la parole la plus importante. C'est l'absolue vérité. Ce sont des paroles qui ne passeront jamais. Le monde passera, les paroles de Jésus resteront debout. Tout le monde verra un jour, ces paroles étaient vraies. Tout ce que Jésus a dit, c'était vrai. Quel dommage de ne l'avoir pas reçue, cette parole. Et pour les croyants, de ne l'avoir pas gardé fermement, soyons exercés pour garder cette parole du Seigneur. Je voulais encore dire autre chose. Pour aimer Jésus, il y a une chose aussi très simple et très importante. C'est comme quand on aime des frères et sœurs, qu'on aime des personnes. Pour aimer quelqu'un, il faut le fréquenter. Et dans notre vie, si nous voulons aimer Jésus, nous devons le fréquenter. Comment est-ce qu'on fait ça pour fréquenter le Fils de Dieu aujourd'hui ? Eh bien, je pense qu'on peut encore l'inviter chez soi. Comme autrefois, bien des personnes ont invité le Seigneur chez eux. Nous avons à la fin des évangiles ce témoignage extraordinaire de Marie de Béthanie. On peut dire que c'est le témoignage de quelqu'un qui a aimé le Seigneur Jésus. Là, encore une fois, sans parole, par un geste éloquent. Aucun disciple n'a pu faire ce geste à ce moment-là. Aucun disciple n'a pu montrer un tel attachement, un tel amour au Seigneur, une telle intelligence, une intelligence d'amour qu'avait Marie. Comment ça se fait que Marie est arriver à cela, à rendre ce témoignage à ce moment-là, avec ce parfum? Eh bien, Marie, avec sa sœur, et avec Lazare, elle a beaucoup fréquenté le Seigneur. Elle a été souvent avec lui. Le Seigneur était souvent à Béthanie. Il aimait venir là. Mais il était invité, il était accueilli, il était écouté, il était invoqué quand on avait des problèmes. Vous voyez, cette famille, c'est trois personnes au moins, peut-être d'autres encore dans cet endroit. Ils fréquentaient le Seigneur. Et nous aussi, si nous voulons aimer Jésus, il faut être avec lui souvent. Il faut le fréquenter, c'est tout simple. Il faut faire ça tous les jours. On fréquente Jésus par la prière. C'est la première chose. En lui parlant, simplement mais vraiment, et régulièrement. On fréquente Jésus, bien sûr, en écoutant sa parole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier la parole, mais il faut tout d'abord l'écouter. Et Jésus veut me parler, Dieu veut me parler par sa parole. Je dois me demander dans ma lecture, est-ce que j'ai entendu la voix du Seigneur? Parce qu'il veut me rencontrer. Lui aussi, il veut me fréquenter, il veut me trouver. Mais il faut que je prenne du temps pour cela. Si je ne prends pas du temps pour cela, cette rencontre, elle peut pas réussir, n'est-ce pas? Et mon amour pour le Seigneur, il ne peut pas grandir non plus. À la fin de l'évangile de Jean, nous avons cette rencontre de Jean avec Pierre, son disciple. Pierre était un disciple qui aimait beaucoup le Seigneur. Ça, c'est sûr. Il l'aimait plus que moi. On dit parfois facilement de quelqu'un, on dit « il aime le Seigneur ». Un tel ou un tel, il aime le Seigneur. Et parfois, on rajoute « mais ». Il aime le Seigneur, mais laissons parler le Seigneur. Le Seigneur me pose la question. Est-ce que toi, tu m'aimes? Il l'a posé à Pierre, qui s'était avancé, bien sûr, nous le savons, très sûr de lui. Et qu'est-ce que ce passage nous apprend? C'est bien vrai que nous devons avoir un amour ardent pour le Seigneur. L'amour pour le Seigneur, on sait que dans l'Apocalypse, à Éphèse, il lui est reproché d'avoir perdu son premier amour. Le premier amour, c'est un amour de fiançailles, on peut le dire. Et ceux qui seront mariés, ils savent ce que c'est un amour de fiançailles. C'est un amour ardent et exclusif. Il supporte rien d'autre. C'est un amour qui est dirigé vers une personne, à fond pour une personne. C'est un amour de fiançailles, c'est un premier amour. Ce premier amour, le Seigneur nous l'a donné quand nous l'avons trouvé, n'est-ce pas? Et là aussi, cet amour, il faut le retenir, et pour le retenir, nous devons le cultiver. Donc Pierre avait un amour ardent, ça c'est sûr. Mais il n'avait pas un amour humble. Il n'avait pas un amour humble. Il était tellement sûr de lui. Et ça a provoqué une chute. Et maintenant, le Seigneur est là pour terminer de relever Pierre et lui confier des missions. Et il lui demande, je ne vais pas détailler tout ce passage, mais la première question est vraiment cinglante. M'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? L'amour du Seigneur, ce n'est pas un amour qu'on compare avec les autres, n'est-ce pas? On n'a même pas à beaucoup parler de l'amour des autres. C'est le Seigneur qui s'en occupe. Et encore moins à se comparer à l'amour des autres. Et Pierre avait fait cela, mais ça peut bien nous arriver à nous aussi. Le Seigneur dit, maintenant, on ne va plus regarder les autres, on va regarder toi. Toi, Pierre, est-ce que tu peux encore dire cela? Est-ce que tu peux encore dire que tu m'aimes plus que les autres? Alors, on sait que Pierre a baissé la tête, n'est-ce pas? Il dit, écoute, Seigneur, tu sais ce qu'il en est de moi. Et le Seigneur a bien approfondi ça pour bien l'asseoir dans le cœur de Pierre. Nous avons besoin du Seigneur pour aller loin en amour. Le Seigneur sait jusqu'où on peut aller dans notre amour pour lui. Nous ne le savons pas. Le Seigneur le sait. Et il pouvait dire alors à ce moment-là à Pierre, tu laisseras un jour, tu laisseras ta vie aussi pour moi. Mais ça, c'est moi qui le sais et c'est moi qui t'aiderai à ce moment-là. Un amour ardent, mais un amour humble, modeste. Car affirmer devant le Seigneur, quand le Seigneur me pose la question, que je l'aime, c'est une autre histoire que de dire de quelqu'un, il aime le Seigneur. Mais il y a aussi ça et ça. Mais c'est toujours une bonne chose de se placer directement devant le Seigneur. Et alors là, il en résulte une prière, et c'est tout autre chose. Elle dit, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Il y a de beaux cantiques sur ce sujet. Un beau cantique allemand. Mehr lieben möchte ich dich. J'aimerais t'aimer plus. Aide-moi à t'aimer. Une dernière pensée, peut-être encore, qui est de toute importance, qu'on trouve dans la première épître de Jean, où il est beaucoup question d'amour, n'est-ce pas? Parce que Jean était, on le voit dans son évangile, mais aussi dans cette épître, Jean était vraiment à l'école d'amour du Seigneur. Il a appris beaucoup de choses. Il a entendu le Seigneur, c'est lui qui a retransmis le commandement du Seigneur, que nous devons nous aimer les uns les autres. Eh bien, la chose est... La chose est très simple. Au chapitre 5 de la première épître de Jean, il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. » Et dans le chapitre précédent, au chapitre 4, verset 21, et nous avons ce commandement de sa part que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. l'amour de Jésus nous conduit à aimer nos frères. Et de la même manière, un amour ardent pour ses frères, mais aussi un amour humble pour ses frères, parce qu'on ne les aimera jamais assez, et qu'on est bien en défaut de bien des manières dans cet amour-là. Mais il va ensemble avec l'amour de Dieu. Il va ensemble avec l'amour du Seigneur Jésus. On ne peut pas aimer ses frères quand on n'aime pas le Seigneur, quand on n'est pas vraiment proche de lui, quand on n'est pas dans son intimité, quand notre cœur, comme on l'a chanté dans le cantique, n'est pas attaché au Fils de Dieu. On n'est pas dans cette vraie amitié de Jésus. Alors on ne peut pas aimer ses frères. Car quand on aime celui qui a engendré ses frères et sœurs, comme nous avons été chacun engendrés, eh bien on aime celui qui est engendré de lui.
Je voudrais juste lire en complément trois passages, courtement, avec un point. Aimer, c'est une action. Il y a un sujet, il y a un objet. J'aime quelqu'un. Quelqu'un m'aime. Le Seigneur m'aime. C'est le Seigneur qui agit et moi je suis l'objet. Si on peut dire quand le verbe « aimer » est utilisé, le sens est clair. On sait qui est l'objet, qui est l'acteur, celui qui aime. Le terme « ami », je ne dirais pas qu'il est ambigu, mais il demande un contexte pour qu'on puisse savoir comment le comprendre. Et je m'explique avec un verset solennel, Matthieu 26. Je lis juste verset 50, réponse du Seigneur à Judas. Et Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Qui est l'ami de qui ? Tout le contexte nous le dit, mais on a besoin du contexte. Judas n'était pas un ennemi pour le Seigneur. Mais ça a été dit, Alain l'a dit tout à l'heure, Judas avait un autre ami, l'argent. Et pourtant, le Seigneur dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Et je voudrais mettre ça en relation avec un passage dont on ne se lasse pas de le lire, Romains 5, verset 8. Mais Dieu constate, prouve, démontre son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire « ami » à Judas. Du côté du Seigneur, tout était là pour que Judas puisse considérer le Seigneur comme son ami. Mais Judas avait autre chose. Mais ce n'est pas Judas qui m'intéresse. C'est vraiment le Seigneur qui aimait, qui a aimé, qui aime, au point de pouvoir dire à Judas, « Ami ». Et alors le troisième passage, il était sous-jacent dans tout ce qu'on a considéré jusque-là. On peut juste lire dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, et c'est aussi en écho à ce que on a vu de cette femme pécheresse de Luxette. Jean 4, verset 19, « Nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. » Je reviens juste courtement à justement Luc 7, où il y a, ça m'a toujours frappé, comment on a dans ce qu'on a, le verset qu'on a lu tout à l'heure, verset 47, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui il est peu pardonné, mais celui à qui il est peu pardonné aime peu. Je le relis en le déformant. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. Ça m'échappe comment je voulais le dire. Oui, le Seigneur ne dit pas, je te dis, elle a beaucoup aimé parce que ses nombreux péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qui était en premier ? L'amour pour le Seigneur ou le pardon des péchés ? Il y a ce petit quart qui nous montre que l'amour était présent avant même qu'elle sache qu'elle serait pardonnée. Et il y a ce lien entre l'amour et la foi. Elle est venue au Seigneur avec cette foi que l'on retrouve à plusieurs occasions. Le centurion qui vient voir le Seigneur à cause de son serviteur malade, la femme qui avait une perte de sang, cette foi que le Seigneur pouvait, cette foi que le Seigneur était accessible. Et là, le Seigneur met le doigt sur l'énergie de cette foi. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé, et la réponse est presque automatique. On peut dire que ça va de pair. Parce qu'elle a beaucoup aimé, car elle a beaucoup aimé, ses péchés sont pardonnés. Alors que ce qui est dit après, car celui à qui il est peu pardonné aime peu, les choses sont inversées. Il faut goûter le pardon pour aimer à la mesure du pardon. Ça, c'est la situation de celui qui n'a pas conscience, qui ne mesure pas ses péchés, qui ne mesure pas de quoi il a besoin, qui ne mesure pas sa misère. Et alors on est, si on peut dire, avare en amour. Nous l'aimons car lui nous a aimés le premier.
Thank you. Seigneur,